Ben, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle dans le commerce de détail. La mauvaise, d'abord, le Château, qui est quand même une belle entreprise québécoise, qui a 61 ans, ben, c'est fini. C'est fini. Puis écoutez, on parle de 1400 employés, 123 boutiques. C'est terminé, là. L'entreprise va être liquidée. Une liquidation ordonnée sous la loi de la protection ou de la loi des sur les arrangements avec les créanciers, comme ça s'appelle maintenant. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. OK? On s'entend là-dessus. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle boutique, très, je dirais, très in, là, qui s'appelle Uniqlo, elle ouvre aujourd'hui au centre-ville de Montréal. C'est une boutique japonaise de vêtements. Ils se font parfois qualifier d'être les Apple de la mode. Tu sais, c'est comme ça. Je veux dire, ils ont vraiment un public là qui les suit, là, puis il y a une ouverture de magasin, puis c'est la folie furieuse. Et justement, on a un collègue, Francis Pilon, journaliste à Cogeco Nouvelles, qui est allé à l'ouverture. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Est-ce que ce que je décris, c'est exact?
C'est exact. Il y avait du monde à messe. C'est ce que tout le monde me dit ce matin. Il y avait des fils, là. C'était long quand même. C'est situé l'entrepôt là, à l'ancien Forever 21. OK? Donc, c'est Sainte-Catherine, McGill College. Il y avait des centaines de personnes. Je pense que plusieurs gens qui ont été surpris de voir autant de personnes autour d'eux en pleine pandémie.
Oui.
Donc, non seulement ce magasin-là ouvre en pleine crise sanitaire, mais en plus, c'est la plus grande succursale qu'on retrouve au Canada. Donc ça, c'est important quand même. L'ouverture se faisait à 10 heures ce matin. Il y avait des gens qui étaient là depuis 8 heures, qui attendaient devant la porte depuis 8 heures ce matin. Il y a un monsieur à qui j'ai parlé même qui était là pour la fête de sa femme. Il était le deuxième client, c'est-à-dire à quel point il voulait célébrer ça avec elle. Il y a plusieurs personnes qui ont connu aussi la marque quand ils sont voyagés, qui ont voyagé au Japon, hein, parce que ça n'existait pas au Québec. Sinon, si vous vouliez aller magasiner sur chez Uniqlo, soit ça se faisait en ligne, soit vous allez dans les boutiques, par exemple, à Toronto,
oui,
ou à New York.
Oui, puis il y a des gens qui partaient de chez nous pour aller magasiner à Toronto chez Uniqlo, là. Uniqlo, hein, c'est comme ça
exact,
que c'est écrit. Mais qu'est-ce qu'ils vendent, eux autres, là, juste?
Ils vendent des produits pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui connaît la marque au Québec, mais ça s'en vient tranquillement.
C'est du prêt-à-porter.
C'est du prêt-à-porter.
Mais très...
accessible, on pourrait dire.
C'est ça.
C'est de qualité, c'est ouais, accessible. C'est des vêtements là, que vous pouvez porter autant à la maison qu'au travail. C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit aujourd'hui.
Okay.
Donc, comme vous le disiez, soit on allait à Toronto, soit on allait à New York. Donc, il fallait être motivé quand même pour aller acheter ces vêtements-là.
Comprends.
Donc, mais maintenant, finalement, on peut magasiner à Montréal. Donc, c'est quand même un soupir de soulagement. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui se disent à la maison, ben voyons donc que des gens faisaient 7 heures de voiture des fois pour aller magasiner ces vêtements-là.
Ouais.
Ben, croyez-le ou pas, c'est possible parce que j'ai parlé avec eux aujourd'hui puis il y en a plusieurs qui me disaient ce même discours-là.
Je suis un gros fan de Uniqlo. Ça fait 5 ans je suis allé au Japon puis je suis allé à Uniqlo. Puis depuis ce temps, tous mes vêtements, ça devient Uniqlo. Je fais une transition.
C'était quoi ta réaction quand tu as su que le magasin allait ouvrir au centre-ville de Montréal?
J'étais extrêmement content. Ça fait, comme je dis, 5 ans que j'attends. Des fois, je fais des voyages à Toronto juste pour aller à Uniqlo. Donc maintenant, je fais une petite marche.
Enfin, parce que l'année passée, on est allé à Toronto pour pouvoir aller magasiner chez Uniqlo.
Oui, c'est ça. On est allé en particulier pour aller chez Uniqlo.
Oui. Bon, enfin, regarde, on va aller voir à un moment donné ce qu'ils vendent et puis on décidera si on aime ça ou pas.
Mm-hmm.
Mais le fait qu'ils s'installent dans l'espace laissé vacant par Tommy Hilfiger, là,
mm-hmm,
au coin de... Tu disais Sainte-Catherine et...
McGill College. Donc, okay, c'est l'ancien Forever 21, où est-ce qu'ils sont en ce moment.
Okay.
Puis ce qui est intéressant, Bernard, que vous avez dit tantôt, c'est une bonne nouvelle, ils ouvrent un nouveau commerce.
C'est
mais
ça.
Ce qui est une autre bonne nouvelle pour des personnes aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent, on veut pas juste magasiner en ligne, il faut encore aller dans des commerces physiques. C'est
ouais,
ce que Uniqlo me dit aujourd'hui, qu'il trouvait rassurant. Autre bonne nouvelle aussi, c'est le fait que tous ces gens-là ont arrêté justement pour avoir la boutique pignon sur rue pour y aller. Et faut dire aussi, vous l'avez dit, c'est un drôle de moment pour que la boutique ouvre ses portes en ce moment. Avec qu'est-ce qui se passe avec le Château, par exemple.
Ouais.
Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, au contraire, nous, on voit ça comme un bon signe que Uniqlo ouvre parce que ça va revitaliser le centre-ville carrément. Donc, ils veulent carrément reconstruire le centre-ville. Ils veulent que ça aille mieux maintenant pour les commerces. Et Uniqlo est une preuve que la multinationale, ça va de mieux en mieux dans les centres-villes, pour les magasins. Et ils disent que, justement, ils espèrent que ça va amener des clients dans les autres restaurants, les autres boutiques. Puis, on le dit, c'est un magasin qui s'adresse aux petits, mais aussi aux personnes âgées. Donc, ça va amener du monde, là, quand même, au centre-ville de Montréal.
Ben, c'est ça.
C'est ce que les gens espèrent.
C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on essaye de sauver le centre-ville. Et puis là, ben, on a un nouveau commerce qui s'installe. Francis Pilon, merci.
Merci Bernard.
Et là, je me tourne vers Jacques Nantel, professeur émérite au HEC Montréal. Bonjour Jacques.
Bonjour M. Dréville.
Je suis content de te parler. alors, écoute, t'as d'un côté l'ouverture d'un commerce très couru, très, très à la mode, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Et t'as le château qui ferme. Pourquoi le château, ça finit par faire pouet-pouette?
Ben, ça finit par faire pouet-pouette parce que c'est un concept qui a été développé début des années 70, qui avait été marginalement modifié avec le temps, mais qui arrive essentiellement au bout de son souffle. C'est un commerce qui n'est plus au goût du jour, non seulement au niveau du type de produits, de vêtements qui sont vendus, mais également, surtout, en termes de gestion de ses coûts. Beaucoup de petits ou enfin moyens magasins dans beaucoup de centres commerciaux, des baux qui souvent sont beaucoup trop chers pour l'achalandage que ça va chercher, des surfaces qui sont trop petites, puis surtout un arrimage avec son commerce électronique qui est pas adéquat. Alors, si on fait le cumul de tout ça, essentiellement, ça prescrit une mort annoncée.
Ouais. Fait que ils sont pas renouvelés. En résumé, c'est ça qui s'est passé.
Ils sont pas renouvelés, mais c'est important de mentionner que ce n'est pas uniquement le cas des magasins de château. On vit une drôle de période dans le commerce de détail. C'est pratiquement un lieu commun de le dire. Mais il y a un paradoxe dans ça. Même si on se place avant la pandémie, le commerce de détail de façon générale ne fonctionnait pas très bien ou aussi bien qu'on l'aurait souhaité, alors que l'économie, elle, fonctionnait bien. Le problème est que les détaillants, beaucoup de détaillants, n'ont pas réinvesti de façon suffisamment massive pour arriver avec des concepts qui étaient essentiellement au goût du jour. Essentiellement ce que les consommateurs souhaitaient. Certains l'ont réussi, certains locaux l'ont réussi. Je pense à Simons l'a passablement bien réussi. Il y en a d'autres qui l'ont bien réussi. Mais les très gros joueurs, les joueurs qui le réussissent très bien, sont de gros joueurs internationaux. Là, on parle de Ito ce matin, mais Apple l'a fait très bien également. Et puis, il y en a d'autres.
Donc, il aurait fallu que nos chaînes investissent davantage, par exemple, dans des entrepôts pour livrer directement à la maison les vêtements. Là. Investir moins dans le fond, dans le béton, dans les espaces commerciaux et puis prendre acte que le commerce électronique se développe à la vitesse grand V puis prendre ce virage-là dans le fond.
Ben c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et encore une fois, c'est pas uniquement une question de commerce électronique parce que c'est clair que le commerce n'en ira pas totalement électronique. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Sauf que d'avoir une kyrielle de petits magasins avec les mauvais inventaires au mauvais endroit, vous savez, quand tu as une cinquantaine de magasins et tu as le chandail de la mauvaise taille, de la mauvaise couleur à Québec, alors que tu en aurais besoin à Montréal, c'est un casse-tête, ça coûte très cher. Lorsque tu as quelques magasins, des très grands magasins comme ceux qui sont en train d'ouvrir, des entrepôts bien centralisés, un commerce électronique qui fonctionne, ben la réalité, c'est que tu n'augmenteras pas tes coûts de distribution, tu vas les baisser.
Jacques Nantel, merci.
Toujours un plaisir. Hein?
Ah oui, absolument. Après la pause, vaccin.